Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ce matin, eh bien, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons lire un texte dans le livre de Samuel, chapitre 23, s'il vous plaît, verset 13. Un texte qui est lu, je n'en doute pas, qui passe souvent inaperçu, mais j'aimerais en retirer quelques pensées ce matin pour notre réflexion, particulièrement dans la communion fraternelle. Dans notre engagement vis-à-vis du Seigneur et au regard des autres, des frères et des sœurs. Alors, 2 Samuel 23, chapitre 13. Trois des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulan, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Raphaïm. David était alors dans la forteresse. Et il y avait un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne du puits qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Que Dieu nous bénisse à travers sa parole que nous allons ouvrir et méditer ce matin. Un épisode fugitif de la vie de David. Eh oui, parce que David a eu une vie bien remplie, où il y a beaucoup de récits, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses qui nous sont dites sur son existence. Mais il y a aussi ce fait que j'aimerais donc relever ce matin. Parce que le texte en question nous livre une grande leçon sur le sens de la consécration. Être consacré, qu'est-ce qu'être consacré en tant que chrétien? Le dévouement à l'œuvre de Dieu, bien sûr, mais le dévouement aux autres, à nos frères et nos sœurs, mais aussi eh bien, à tous ceux qui nous environnent, et puis notre considération pour eux. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important qui rassemble l'Église de Christ autour de son Sauveur et de son Seigneur, c'est que nous sommes une famille. Nous sommes un même corps, et c'est ainsi que eh bien, le Nouveau Testament eh bien, qualifie l'Église corps de Christ. Et il y a une vie, naturellement, au milieu de nous. Et rendons cette vie, par la grâce et l'Esprit de Dieu, eh bien, la meilleure possible. Le contexte rapporte un état de guerre, sinon d'occupation, des ennemis d'Israël. Alors, c'est arrivé souvent, qui fait que... Eh bien là, ce n'est pas une vie normale. Un pays qui est en guerre, un pays qui est sous occupation, ce n'est pas un pays qui vit normalement. Tant de malheurs où la vie est constamment menacée. Et c'est bien ce que ces textes, ces livres historiques, Samuel, roi, chronique, nous rapportent dans ces pages. David, pour l'heure, se réfugie sur les hauteurs montagneuses, hors d'atteinte, parce qu'il est menacé. Il est menacé par les Philistins ou par les ennemis d'Israël, mais il est menacé aussi par le roi d'Israël, parce qu'il n'est pas encore roi. Il le deviendra, mais il ne l'est pas encore. Et à ce moment-là, il y a trois vaillants soldats, compagnons de combat, compagnons de lutte, compagnons d'infortune, qui vont rejoindre David dans sa retraite sur les montagnes, et l'histoire que nous allons entrevoir ce matin commence par une banale exclamation. Eh oui. Du genre, David s'adressant à ses compagnons dira ceci, « Qui me fera boire de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem. Alors c'est quand même quelque chose de totalement anodin, dit quelqu'un qui a soif et qui dit, ben voilà, moi j'aimerais boire de l'eau, mais pas n'importe quelle eau, celle qui se trouve dans la citerne de Bethléem. Mais entre la caverne d'Adulan et puis Bethléem, il y a quand même une distance, et au milieu il y a les ennemis. Alors c'est quand même assez étonnant. On aurait pu penser, on pourrait penser que c'est un désir capricieux et dangereux. Qu'il y avait naturellement un danger, parce que bon, demander de l'eau à boire à quelqu'un et quand vous l'avez à portée de main, c'est pas, ça ne comporte aucun risque. Mais là, c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Mais qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve aux portes, à la porte de Bethléem? Voilà la question. Peut-être pouvons-nous imaginer les choses sous un autre angle. Certainement, un souhait provenant d'un souvenir lointain de jeunesse, voire même d'enfance de David, parce que vous savez que David était originaire de Bethléem. Et il se souvient à ce moment-là, eh bien là, que quand il était enfant ou quand il était plus jeune, eh bien il allait se désaltérer tout simplement au puits qui était dans le voisinage de la maison de son père, qui s'appelait Isaïe. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui lui a traversé la tête pour dire, eh bien, pour demander finalement, j'aimerais boire de cette eau-là. Parce que, au fond de son cœur, eh bien, il y avait probablement un souffle de nostalgie. Il s'est dit, bien, oui, ça me ferait vraiment plaisir. Cette eau plus qu'une autre, pourquoi cette eau-là? Parce que vous savez, l'eau, c'est à peu près le même goût, hein. Hein, dans les vins, c'est différent. Mais l'eau, c'est de l'eau. Et qu'est-ce qui l'a amené finalement à désirer probablement, alors, caprice ou autre chose, je ne sais pas, nostalgie. Et voilà que par affection pour David, je dis bien par affection, je dirais même peut-être par amour pour David, ses trois compagnons fidèles vont prendre cette parole au sérieux. Et ils vont braver tous les dangers et ils vont descendre au milieu des lignes ennemies, satisfaire à cette fantaisie de David. Ils vont dire à David, mais nous allons y aller. On va aller finalement te chercher cette eau, parce que qu'est-ce que l'on pourrait te refuser, David? On a beaucoup d'affection pour toi. Tu es notre chef. Il ne pouvait pas dire encore, tu es notre roi, mais tu es notre chef. Alors, on aimerait vraiment te faire ce plaisir. Tu as un désir, alors on va aller te chercher cette eau. Et voilà ces trois hommes qui partent, qui vont se dissimuler, qui vont se faufiler, qui vont passer à travers les lignes des Philistins pour descendre. Et une chose qui nous est dit au verset 16, « Et ils la présentèrent à David. » Ce qui veut dire que, en quelque sorte, ils vont descendre, naturellement, au travers, et ils vont rapporter cette eau, et ils vont la présenter. Soif de David, sur laquelle j'aimerais m'arrêter quelques instants, cette soif de David qui fait prendre des risques insensés à ses amis. Il aurait pu peut-être avoir ce désir, et de dire, moi je descends tout seul. Et puis, je vais boire moi-même. Je vais aller au puits de la maison de mon père, à Bethléem, et je veux me servir moi-même. Mais non! Il a exprimé ce désir et puis ce sont les autres qui vont descendre. Et je crois qu'il y a une réflexion à tirer de tout cela, c'est que ça semble vraiment un désir insensé. En confiant à ses soldats, à ses amis, à ses compagnons, des missions périlleuses. Alors ils y vont et grâce à Dieu, ils en reviennent. Parce que ça aurait pu très mal se terminer cette histoire. Je peux vous dire qu'ils ne seraient jamais remontés s'ils étaient tombés entre les mains des Philistins. Qui cernait tout le pays, qui barricadait tout le pays. La réflexion qui inspire ce récit est la suivante, me semble-t-il. Notre responsabilité vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous, les membres de notre famille, de nos familles par exemple, parce que ça relève et ça soulève quelque chose qui nous ramène au premier temps de l'histoire de l'homme sur la terre. On s'en souviendra à la question de Dieu qui est posée à Caïn. Où est donc ton frère, Abel? Nous voyons que Caïn va répondre cette parole, tout simplement, cette réponse. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Vous connaissez ? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Après tout, il fait ce qu'il veut. C'est son problème. Et ça, je crois que cette soif de David est là pour poser la question, quoi qu'il en soit. Très longtemps après, Jésus, achevant sa mission ici-bas, s'exclamera ainsi, et nous allons voir ce texte, dans l'évangile de Jean, parce que il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'important dans notre responsabilité vis-à-vis les uns et les autres. Jean chapitre 17, versets 11 et 12, vous connaissez cette parole. Jésus dira ceci dans la prière sacerdotale, s'adressant à son Père céleste. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais au Père, Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et le verset suivant, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. » Aucun d'eux ne s'est perdu. Perdu. Responsabilité vis-à-vis de l'autre, d'autrui. Il est une grande tentation, me semble-t-il, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, c'est l'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, vous savez de quoi je veux parler. L'histoire est pleine, l'histoire des hommes est pleine d'hommes qui ont abusé de leur pouvoir, parce qu'ils avaient là une position d'élévation, de puissance, à quelque niveau que nous pouvons l'imaginer. Et on s'aperçoit que souvent il n'y a eu que désastre et ruine. L'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir pour les hommes qui sont à l'extérieur, on sait ce que c'est. Mais l'abus de pouvoir spirituel, c'est aussi quelque chose. Et on le voit, ce que la religion, ou une religion, ou les religions sont capables de faire avec l'abus de pouvoir. C'est dramatique. Ne cherchons pas très loin dans l'histoire, regardons tout simplement l'aujourd'hui. Dans notre monde, dans certains pays, sur certains continents, en utilisant le nom de Dieu, en proclamant la vérité de Dieu. Alors, c'est vrai que c'est une grande tentation de se dire « je suis investi du ciel ». Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, vous en conviendrez. C'est quelque chose de dangereux de se servir des autres qui est qualifié d'utilitarisme, peut-être dans ses aspects les plus faibles, mais qui peut revêtir aussi eh bien, un autre vocabulaire lorsque les choses sont poussées à l'extrême. User d'autorité ou de son autorité pour satisfaire nos désirs, nos ambitions, nos réalisations personnelles, en d'autres termes, nos soifs d'eux. Et Dieu sait si les hommes ont soif. Ils n'ont peut-être pas soif de l'Évangile, ils n'ont pas soif d'humilité, ils n'ont pas soif de modestie, mais ils ont soif du contraire. Alors ne regardons pas toujours le monde, qui n'est pas forcément un exemple, mais ne prenons pas exemple nous-mêmes sur le monde, parce que nos soifs sont aussi quelquefois au milieu du peuple de Dieu. David était un homme de Dieu, et il a eu quand même une soif dont nous pouvons émettre des doutes pour risquer ces hommes qui sont partis au risque d'y perdre la vie. Nos soifs de beaucoup de choses. On n'en parle pas toujours de cela, parce que l'Évangile, c'est d'en parler. Et vous savez que Jésus en a parlé de ces soifs-là à ses disciples. Il les a enseignés. On peut regarder ça sous cet angle. On ne peut pas le voir si on ne veut pas le voir. Parce que vous savez, être chrétien tient beaucoup plus au caractère qu'à ce que nous faisons. Et Dieu nous a appelés pour que nous soyons changés, que nous soyons transformés. Ce n'est pas de proclamer « je suis chrétien, je suis fidèle, je suis consacré, je suis ceci, je suis cela ». Ce n'est pas notre bouche qui doit nous louer, c'est celle des autres. Parce qu'on peut toujours mettre en avant certaines choses et puis finalement rester complètement irrégénéré à l'intérieur de nous-mêmes. Nos soifs de ceci, de cela. Mais lorsque nous utilisons les autres pour parvenir à nous satisfaire ou à nous désaltérer, au péril, au détriment de ceci, de celui-ci ou de celle-là. Et ça, ça va dans le peuple de Dieu, mais ça va aussi dans nos couples. Ça peut aller aussi dans notre vie familiale. Ça va naturellement dans notre vie sociale. Et combien de gens, quelquefois, dominent les autres, et puis y a toujours un dominé, un dominant. Alors demandez l'avis du dominé, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Parce qu'il n'y a que le dominant qui parle. Alors, c'est ça ce que suggère ce texte. Alors, que représente cette eau précieuse, valeur de la vie humaine tirée du puits de Bethléem? On pourrait peut-être formuler les choses de cette manière, mais quelle valeur a cette eau? Elle a une grande valeur, assurément, parce que si ce n'est que de l'eau pour la boire, tout simplement parce qu'elle est à la portée de la main de David, mais non, mais elle est beaucoup plus, elle a une valeur encore beaucoup plus grande. Elle va avoir une valeur beaucoup plus grande parce qu'elle va venir de Bethléem, et bien là, au prix de la vie de ces hommes, qui vont risquer leur existence. Et ils vont le faire par amour pour David. Eh oui, par amour. Ces trois braves hommes, soldats, combattants, compagnons, sont le type de ces grandes vertus que sont l'amour. Et l'amour, on doit en parler. L'amitié. Et l'amour, il faut en parler parce qu'elle existe. La fraternité, ça existe. D'où découle la consécration et le dévouement total. Et ça, je ne doute pas que nous n'ayons pas compris la leçon. Nous avons compris la leçon. L'Église de Jésus-Christ, elle est faite d'hommes et de femmes où nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. À servir le Seigneur. Mais ça veut dire servir le Seigneur, ça veut dire aussi servir les autres. Nous mettre à la portée, à l'aide, au secours. Donner une main d'association ou de consolation ou autre chose. À nos frères et à nos sœurs. Et ça commence par ceux que je connais. Parce que ceux que je ne connais pas, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. C'est ce que nous faisons dans nos églises. Quand vous donnez de l'argent ou de vos moyens pour la mission, vous ne connaissez pas tout le monde, mais ça s'en va et vous savez que... Vous faites confiance, naturellement, et il faut faire confiance. Mais ça commence aussi par l'église locale. Parce que c'est bien, peut-être, là, d'aller avoir une vision très, très élargie, mais il faut aussi que ça commence au milieu de nous. C'est ce qui fera la qualité de notre communauté, aussi. Jésus n'a-t-il pas dit cette parole que je rappelle? Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous vous souvenez cela? Évangile de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vais vous raconter une histoire. Vous voulez bien? Cette histoire nous relate les bombardements alliés sur l'Allemagne en 1943, au moment où il y a vraiment cette intensité de bombardement, ces tapis de bombes. Enfin, c'était réciproque, hein, ça allait aussi dans l'autre sens. Et lors d'un échange aérien intense, un bombardier britannique a été criblé par la Luftwaffe, c'était bien sûr l'aviation militaire allemande, et l'impact a atteint le fuselage près du réservoir à essence et l'équipage, eh bien, naturellement, a senti qu'il y avait quelque chose, un impact, et il a été affolé et il s'attendait à exploser en vol. Or, rien ne s'est produit. Rien ne s'est produit. Par miracle, l'avion est parvenu à regagner les côtes et le territoire de l'Angleterre. Il a regagné sa base. Et les hommes s'en sont sortis sains et saufs. Et tout étonnés parce que la DCA les avait certainement pas ratés ou avec d'autres avions qui les avaient pourchassés. Alors on a mis un mécanicien aussitôt sur l'avion et il a inspecté finalement l'aéronef. Et il a découvert 5 balles. 5 balles à l'intérieur du réservoir. Il avait bien visé le réservoir. Et on a ouvert avec précaution les projectiles. Et quelle ne fut pas la surprise, ces balles ne contenaient pas de poudre. Elles avaient percé le fuselage, mais il n'y avait pas de poudre qui fait exploser. Et à l'intérieur de l'une d'entre elles, de ces balles, il y avait un minuscule papier qui était roulé et qui disait ceci. Nous sommes des prisonniers de guerre de l'autre côté et nous sommes obligés de fabriquer du matin jusqu'au soir des balles. Nous sommes dans une usine d'armement et nous fabriquons sans cesse des balles. Lorsque nos gardes tournent le dos, eh bien nous ne remplissons pas les munitions de poudre. C'est notre façon à nous de sauver des vies. 5 petites balles parmi des millions et des millions qui ont été fabriquées ont fait la différence pour l'équipage d'un bombardier. Au risque sans doute, pour ces prisonniers, de se faire exécuter séance tenante s'ils étaient découverts et trahis. Ils ont pris le risque. Pourtant, ils l'ont fait pour que d'autres hommes soient sauvés. Quand Jésus nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », ça nous reporte à l'histoire de la croix, quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». Et à travers le sacrifice que Jésus a accompli, quand nous savons que ce n'était pas pour des amis qu'il le faisait, mais pour ses ennemis, pour que nous devenions ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, pour revenir à notre texte, est-ce que l'on peut impunément faire usage, finalement, de la vie des autres comme cela? Est-ce que nous pouvons être des consommateurs sans vergogne, des bénédictions spirituelles et demeurer bénis? Nous sommes bénis, Dieu veut nous bénir et nous bénir encore pour que nous partagions ces bénédictions avec les autres. Et ça, il faut que nous le comprenions. Ce matin, le Seigneur veut nous faire du bien, il va nous faire du bien, et demain, il continuera à nous faire du bien, mais il faut le partager. Pas le garder pour nous, et peut-être le partager avec ceux qui en ont le plus besoin, urgemment besoin. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne suis pas là ce matin pour moi-même, mais je suis là pour les uns et pour les autres, pour vous. Vous êtes pour votre frère et votre sœur, nous sommes là tous pour le Seigneur. Est-ce que notre propre satisfaction que nous buvons à la citerne de Bethléem, est-ce que nous nous posons la question, parce que c'est ça ce puits, hein, ce puits de grâce et de bénédiction, pour nous demander, pour nous poser la question, est-ce que c'est ma propre satisfaction qui doit être prioritaire? Là, précisément, dans ce puits, enfin là, source de bénédiction, est-ce que véritablement, eh bien, il n'y a pas une démarche où Dieu m'a envoyé à cette place-là, dans cette église-là, à cet endroit-là, dans cette ville-là, dans cette région-là, pour que je puisse véritablement, eh bien là, le partager avec les autres et non pas satisfaire mes propres désirs. Parce que des désirs, on en a. Et on en a. Et on en aura jusqu'au bout. Mais est-ce que c'est moi qui suis prioritaire ou c'est les autres, c'est le Seigneur ou les autres? Tout dépend de la manière dont nous concevons les choses et tout notre conception, eh bien de notre conception va découler la grâce et la bénédiction de Dieu sur notre vie. Seigneur, je ne veux pas être asséché, je ne veux pas être desséché, je ne veux pas être stérile, je ne veux pas être infécond. Alors pour ne pas être tout cela, frères et sœurs, eh bien il faut partager avec les autres. Il faut donner. Et si je fais pour moi, si je prêche pour moi, si je chante pour moi, si je loue pour moi, si j'adore pour moi, si je fais tout en me disant, eh bien je vais récupérer quelque chose, me glorifier moi-même, j'ai perdu la partie, je ne suis pas dans la pensée véritablement dans laquelle Dieu peut me bénir. Ce n'est pas possible. Se donner. L'orgueil, notre réussite, notre position et réputation ne doivent jamais trouver assise au détrouement ou dans la peine et la souffrance d'autrui, de notre prochain ou de notre lointain. On est soucieux que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Mais il faut comprendre qu'il faut que nous fassions aussi du bien aux autres. Et en faisant du bien aux autres, nous ferons du bien au Seigneur. Nous le glorifierons. Parce que faire le bien ou faire du bien, ce n'est pas une chose exceptionnelle, c'est une chose normale pour Dieu. Alors nous n'avons pas à en tirer d'orgueil. De quoi nous pouvons nous glorifier quand nous faisons les choses qui sont normales? Regardez comment les hommes se glorifient quand ils font du bien. Ils espèrent qu'ils vont avoir leur nom dans une rue de la ville où ils ont habité, où ils vont avoir une statue, ils vont avoir des médailles, ils vont avoir une gratification, et puis les gens en parleront, ils en parleront encore après leur mort, etc. C'est vraiment une courte vue, hein, excusez-moi. Hein. Tous les gens qui ont voulu laisser des souvenirs, ils ont laissé des souvenirs, mais pas toujours des bons. Hein. Non. Notre orgueil, même un orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est le pire de tous. Mal placé, notre réussite, notre réputation, ne doit jamais être au détriment ou sur la peine et la souffrance des autres. Jamais. Ou menacer la vie des autres. Dans la famille, les parents, les amis, les frères en la foi. L'orgueil est un philistin sournois et redoutable. L'orgueil, un philistin. On parle beaucoup des philistins encore aujourd'hui. Hein. Si vous écoutez un petit peu les informations, ce n'est pas les pauvres gens qui vivent sur ce territoire. Ce sont ceux qui sont en armes. Ceux qui prennent la vie des autres. Quels qu'ils soient. Qu'il soit à droite ou à gauche, peu importe. L'orgueil est un philistin. Un philistin à l'affût pour égorger les enfants de Dieu qui viennent quérir à la source. Et vous savez, derrière ce philistin-là, il y en a un que j'appelle le grand marionnettiste, parce que lui, il se fait fort, hein, finalement, de nous donner soif, de toutes les soifs du monde. Je dis bien du monde. Quand on veut quelque chose de mauvais, et je le dis à dessein, même s'il y a des apparences de bien, mais qui est mauvais dans son fond, et quand on le veut à tout prix, on trouvera toujours sur notre route des Uri. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez l'histoire d'Uri et de David? Parce que David a été formidable dans la suite, on va le voir, mais il n'a pas toujours été formidable. On trouvera toujours des Uri à éliminer, à envoyer devant l'ennemi, pour qu'ils ne reviennent jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? David commet un adultère. Ensuite, il garde son péché dans le mensonge, enfin toutes sortes de choses. Et puis à un moment donné, il y a un enfant qui va venir de cette liaison adultère. Et là, il veut maquiller, il veut finalement que Uri, qui est au combat là dans la région extérieure, revienne pour que véritablement il ait des relations avec sa femme, pour couvrir un peu son péché. Un prétexte, Uri, pour David. Et vous savez, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, l'adultère de David, c'est un péché, naturellement. On ne va pas dire le contraire. Mais vous savez ce que Dieu va retenir? C'est pas ce péché-là. C'est d'avoir voulu éliminer Uri par au moins 3 fois. Relisez le texte, c'est dans 2 Samuel chapitre 11. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais vous verrez que le problème, c'est qu'il a commis une faute, c'est vrai. Mais après, il a manipulé. Il s'est servi d'Uri pour lui dire « Reviens, je te donne un congé militaire. Tu viens, tu vas voir ta femme. Prends ton temps, les autres sont en train de se battre. » Mais prends ton temps, tu vas voir ta femme, tu manges, tu bois, tu voilà, exactement, etc. Et par 2 fois, Uri lui dit, mais non, moi je ne veux pas laisser mes compagnons qui sont en train de se battre. C'est un brave, hein, c'est un homme d'honneur, Uri. Et à un moment donné, quand il voit qu'il n'y arrive pas, David, eh bien il envoie un messager, ou en tous les cas, un ordre au général hein, qui mène les combats, et qui lui dit, vous mettez Uri en première ligne. Vous le mettez bien là, justement, en face des ennemis. Bon, ce qui se passe, ce qui devait arriver, est arrivé. Hein. Uri, massacré. Comme ça, David, il est tranquille. Plus personne ne peut rien dire. Et vous savez ce que Dieu a reproché à David? C'est vrai que la première faute était réellement un péché. Mais ce qui était terrible pour David, c'est d'avoir manipulé, d'avoir dissimulé, de s'être servi de la vie, faisant mourir un homme. Vous vous rendez compte, David meurtrier? Parce que David avait fait certainement tuer des hommes dans les combats, dans les luttes, etc. etc. Mais ce n'était pas la même chose. Là, c'était quelque chose qui le touchait personnellement. Et il a voulu se servir d'Uri pour l'éliminer, l'envoyer devant l'ennemi pour qu'il ne revienne pas. C'est une lourde responsabilité que la vie des autres, surtout quand elle couvre les péchés, quand elle couvre nos péchés ou nos fautes. Un exemple et sa leçon, Pierre dit ces paroles dans Jean chapitre 13 et au verset 36. Simon-Pierre dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux venir maintenant, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Vous voyez, les grandes proclamations, « Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq chantera, que tu ne m'aies renié trois fois. » Et tout cela pour augurer justement encore une nouvelle pensée. Dans Luc, au chapitre 22, verset 31, il est dit cette parole. Le Seigneur dit, Simon, Simon, c'est toujours Pierre, hein, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le diable vous a cribé comme le froment. En ce qui concerne Pierre, qui s'avance, qui est prêt à promettre n'importe quoi à l'impossible, pour nous montrer que Pierre est en train de nous donner une leçon, quand la témérité aveugle, l'orgueil guette. Et vous savez, il y a quand même une attitude qu'il faut avoir quand on est chrétien, c'est beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie. Je te suivrai partout, tu vas. Jésus lui dit, mais le coq va chanter, tu vas me renommer à la première occasion. Mais tu sais, Pierre, moi, ton sauveur, j'ai vu que le diable t'a appelé pour te cribler. Et vous savez, David, c'est ce qui lui est arrivé, hein, à travers une faute. Mais le diable l'avait appelé pour le cribler aussi, le faire tomber. Et commettre justement le péché terrible d'éliminer Uri. Parce que dans ce monde, nous sommes devant des sources environnées d'ennemis, de philistins. Et les philistins, ils ne sont pas toujours quelquefois à l'extérieur, ils sont quelquefois aussi dans nos propres cœurs. Dieu sait mieux que nous-mêmes pourquoi il fait ou ne fait pas, quand et comment il faut le faire ou ne pas le faire. Alors ça, c'est une question qui peut être l'objet d'un grand débat. Vous savez, quand on est responsable dans l'extérieur, mais quand on est responsable d'une église, quand on est pasteur ou quand on est frère ancien, on ne fait pas et on n'agit pas n'importe comment avec les autres. Alors il y a peut-être des façons qui ont été faites et qui ont abouti et d'autres qui ont été désastreuses. Mais je pense qu'il y a quand même des principes de sagesse. Dans une église, on ne fait pas les choses pour faire plaisir aux chrétiens, aux frères et aux sœurs. Ça s'est fait ça. Quelqu'un qui voulait ceci, quelqu'un qui voulait cela, en disant, voilà, il y a ceci, cela, etc. Oh ben tu le fais, il n'y a pas de problème. C'est véritablement méconnaître les principes qui régissent le royaume de Dieu et la préservation et la grâce qui nous a été donnée et l'ennemi auquel nous avons à faire face. J'ai eu la chance d'être enseigné par un pasteur qui était un homme très, 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 très prudent. Ah oui. Très prudent. Et il n'envoyait pas ses ouvriers ou tout simplement ses collaborateurs au combat comme ça. Parce qu'on peut toujours partir avec des grands principes. Je te suivrai partout où tu iras. Seigneur, il faut sauver les âmes. Il faut aller faire ceci et cela. Mais vous savez, on a vu des gens. Ils partaient, mais ils ne revenaient jamais. Hein, parce qu'ils étaient, excusez-moi l'expression, c'est un peu populaire, un peu trivial, mais dégommés. Parce que pour aller, il faut être appelé. Alors, déjà, il y a des risques dans les choses de la terre, de la vie, des choses indifférentes de la vie, mais il y a des plus grands risques encore quand il s'agit des responsabilités spirituelles. Et quelquefois, il y a des frères et des sœurs qui ne comprennent pas pourquoi le pasteur ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Pourtant, ça semble logique au premier abord. Mais peut-être que nous avons des raisons que vous n'avez pas. Parce que quand Jésus dit « J'ai gardé tout ce que tu m'as donné », eh bien moi, c'est ma responsabilité de vous garder, frères et sœurs. Eh oui, excusez-moi. Eh oui, de préserver. Parce qu'il y en a un qui vous attend. Si vous êtes appelé, d'accord. Mais si vous n'êtes pas appelé, je peux vous dire qu'il y en a un qui va s'occuper de vous. Eh oui. Parce que la témérité aveugle, et à ce moment-là, l'orgueil guette une source empoisonnée d'ennemis. Vous savez, par rapport, et là je reviens vraiment aux responsabilités spirituelles, dans le livre de Timothée, au chapitre 3 et au verset 7, on va prendre le temps de lire cela. Parce qu'elle concerne notre engagement dans le service. Elle concerne l'engagement des frères anciens, elle concerne l'engagement de tous les frères et les sœurs, ce que vous êtes. Et mon engagement personnel. 1 Timothée chapitre 3, écoutez bien. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, enfin de pouvoir servir hein, d'une manière ou d'une autre, il désire une œuvre excellente. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Vous vous souvenez. Hein. Il faut donc que l'évêque, serviteur, j'aime pas trop le mot évêque parce que ça a des connotations un petit peu. Alors, il faut que soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Alors, nouveau converti, ça peut être un nouveau converti de fraîche date. Mais ça peut être quelqu'un qui est converti depuis longtemps, mais qui n'arrive pas à être vraiment converti. Ah, il n'arrive pas à se dégager. Il peut être converti depuis 15 ans, mais on ne peut pas dire qu'il manque quelque chose. Mais pourtant, il veut servir le Seigneur. Et pourtant, il se dit, moi, je ferais, si j'étais à la place du pasteur, je ferais 10 fois plus que lui. Parce que ça, c'est, quelquefois, ça arrive. Pour ça que j'ai pris des vacances. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et les pièges du diable. Mes frères et mes sœurs, si quelquefois il y a des temps d'attente, hein, s'il y a la prudence, de la sagesse, mais il y a des raisons. Il y a des raisons. On dit « Seigneur, envoie des ouvriers ». Bien sûr qu'il faut que Dieu envoie des ouvriers, mais des ouvriers, que ce soit lui qui les appelle, et pas nous qui les appelons. Et quelquefois, il est quand même assez regrettable, je le dis, il me ferait peut-être couper la tête, mais qu'on ait mis dans le ministère des gens qui n'ont pas de ministère, qui n'ont pas été appelés. Ils veulent servir, mais ce n'est pas le fait de vouloir. Parce que j'ai remarqué une chose, ce n'est pas celui qui veut, c'est celui que Dieu appelle. Et ceux que Dieu appelle, souvent ils ne veulent pas. Une source empoisonnée d'ennemis. Et on ne peut pas exposer, sous le couvert des bonnes raisons de l'évangile, de sauver des âmes, de la prédication, de l'évangélisation, etc., 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 on ne peut pas exposer des gens qui ne sont pas appelés et les mettre en péril. Alors, il faut faire confiance au Seigneur à ce moment-là. Souvenons-nous encore de cet autre épisode. Quand Paul, en mission, parce que Paul, vous êtes d'accord, il était quand même un homme appelé, hein ? On est d'accord, lui, il était appelé. Quand Paul, en mission, est arrêté par l'Esprit de Dieu, quand il a voulu prêcher en Mysie et en Bithynie, à deux reprises, alors qu'il voulait évangéliser, qu'il voulait sauver des âmes dans cette Turquie actuelle, eh bien, Dieu lui a dit par le Saint-Esprit, il lui a dit à un moment donné, c'est écrit, et l'Esprit de Dieu ne lui permit pas. Et il y a des choses qui sont permises et des choses où Dieu nous dira « Stop ! Seigneur, mais je fais rien !» Eh bien oui, mais tu fais rien, c'est tout. Parce que soit tu vas faire quelque chose, mais tu te prépares, ou encore, tu feras, mais tu partiras qu'au feu vert que je te donnerai. Regardez Paul, le grand apôtre Paul, par deux fois, il dit « Je vais aller évangéliser à tel endroit. » Il nous a dit « L'Esprit de Dieu ne lui permet pas. » Il va dans un autre endroit en disant « Ça ne marche pas ici, je vais aller là. » Et il nous a dit « L'Esprit de Jésus ne l'empêcher. » Jusqu'au moment où il va arriver à Troas. Où là, Dieu lui dit, maintenant, voilà la mission que je t'avais réservée. Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas de servir avec nos pensées, avec ce que nous croyons, avec ce que nous pensons nous-mêmes, mais c'est avec son esprit, et selon les directives qu'il nous donne. Ou encore l'histoire des mûriers. Vous connaissez l'histoire des mûriers dans la Bible ? Non ? Bon, on va la lire très brièvement. L'histoire des mûriers, qui est une stratégie, qui est la stratégie divine du savoir-faire surnaturel. Alors on trouve ça dans 2 Samuel chapitre 5. C'est une histoire de combat aussi là. C'est les Philistins. Au chapitre 22, il est dit que les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm, comme dans notre texte là. David consulta l'Éternel et l'Éternel lui dit « Tu ne monteras pas ». David, c'était un homme de guerre, lui, il voulait en découdre. Dieu lui dit « Non, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas sur les cimes des mûriers, alors hâte-toi car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David se fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. » Heureusement qu'il a obéi au Seigneur parce que c'était lui qui était défait. Et il y a des stratégies qui relèvent d'un monde qui ne nous appartient pas de connaître et de voir, mais qui peut nous être révélé par Dieu quand Dieu le veut, mais de ne pas faire les choses comme on le veut. C'est dommage hein, que quelquefois on ait mis dans le ministère des gens qu'aujourd'hui ils ne sont même plus chrétiens. Ils ne sont même plus chrétiens, parce que finalement, soit on a avancé le temps, on a été trop vite, on les a bousculés, et puis, ou alors ils n'avaient pas de ministère du tout. Soyons à notre place, frères et sœurs, et ne dérangeons pas de la place que Dieu nous a donnée. Et quelquefois, il faut du temps pour que nous soyons prêts à faire ceci ou cela. Vous savez, on ne fait pas un ministère parce qu'il y a une déclaration. Hein. C'est parce qu'il a été reconnu, parce qu'on a dit, voilà, c'est un ministère, ceci et cela. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez lu dans Timothée, il nous est dit, toutes les qualités et tout ce qu'il peut y avoir en conséquence de la vie de cet homme, pour qu'il devienne véritablement un ministère. Et Dieu sait très bien qu'il ne veut pas risquer la vie. S'il nous a appelés, ce n'est pas pour nous perdre. Et ce n'est pas pour perdre les autres, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Dieu a soin de son œuvre. Je le répète, Dieu a soin de son œuvre, mais il a encore davantage soin de la vie de ses ouvriers. On le voit, on le sait. Parce que l'œuvre sans ouvriers, il n'y a plus rien de fait. Et quelquefois, quand Dieu dit à certains serviteurs de Dieu ou à certains frères anciens ou à certains hommes qui sont engagés, « Repose-toi, repose-toi, parce que tu vas le faire, mais tu ne vas pas le faire longtemps. Hein. Parce qu'après, tu ne pourras plus te relever. » Dieu a soin de ses ouvriers, et ça, c'est le témoignage de son amour et de sa compassion, de sa bienveillance, de sa bonté pour nous. Frères et sœurs, quand Dieu vous dit « Repose-toi un peu, prends soin de toi, de ta santé, renouvelle-toi, fais ceci et cela parce que tu donnes l'apparence, mais c'est de la fébrilité, c'est de l'activisme. » Nous, dans la Convention, il y a eu des prophéties qui sont venues pour les pasteurs, parce qu'on a droit quand même aux prophéties, nous aussi. Et dans les prophéties, c'était ça. Eh bien, voilà. Parce qu'il y a tellement de choses. C'est vrai que quand on est à la tête d'une œuvre, une grande ou une petite église, peu importe, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à réaliser. Ah, c'était très clair, hein, par deux fois. Parce qu'il y a des choses que nous faisons que Dieu ne nous demande pas, et des choses que Dieu nous demande et que nous ne faisons pas. Et vous savez ce que c'était particulièrement ? Tiens-toi devant le Seigneur. Ça sera mieux que tout ce que tu fais. Tiens-toi pour méditer, tiens-toi pour prier, tiens-toi dans la réflexion, tiens-toi en communion avec le Seigneur, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec nos mains, mais finalement, si on n'est plus en accord avec le Saint-Esprit, et si on n'est plus conduit par le Saint-Esprit, on en mettra plein la vue aux autres. Mais ce n'est pas quelque chose qui sera agréé de Dieu. Attention donc aux conseils et aux avertissements du Seigneur. L'empressement, l'impatience, la témérité sont des Philistins. Et ils sont à la source de Bethléem. Parce que vous savez que Bethléem, c'est la maison du pain, hein, dans son étymologie. Et ils sont à la source de Bethléem. Voyons brièvement la suite. David ne voulut pas boire, et il répandit l'eau devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie chercher cette eau ?» Et il ne voulut pas la boire. Nous touchons à la conscience sensible de David. Cette eau précieuse qui peut être comparée à l'amour, à l'amitié, aux bénédictions diverses, les bénédictions spirituelles, tout ce que les autres, avec dévouement, font pour le Seigneur ou font pour nous. Et ça, ça se respecte. Je suis contre une église où il y a de l'utilitarisme, où on se sert des gens pour ceci et cela, pour de la quantité au détriment de la qualité. Ben vous le savez, de toute façon. Est-ce seulement et égoïstement pour notre propre satisfaction que nous buvons de cette eau? À savoir que tout bienfait utilisé ou accaparé, je me permets de dire ce mot, par et pour nous-mêmes, finira par nous empoisonner. C'est de l'eau empoisonnée. On tourne en rond. Regardons le geste de David simplement. Quand ces hommes sont revenus, ils lui ont dit « Voilà, David, bois maintenant. Nous sommes heureux de t'avoir apporté cette eau. Bois !» Qu'est-ce que fait David? Il l'a répandu devant l'Éternel. Il ne l'a pas acheté par terre comme ça. Il l'a répandu, certainement avec un geste, avec une haute signification spirituelle, il l'a répandu devant l'Éternel. Comprenons ceci. Il nous faut impérativement sacrifier. Et ça nous rappelle Morija. Ça vous dit quelque chose, Morija? Abraham qui a reçu, et où Dieu lui dit, maintenant, tu me rends. Et parce que tu me l'as rendu, ben maintenant, finalement, moi je te le rends. Il nous faut impérativement sacrifier, répandre, rendre à Dieu, consacrer au Seigneur ce qui vient de lui et qui en apparence ressemble à du gaspillage. Imaginez-vous ces soldats, tu nous as fait aller prendre tous les risques et maintenant l'eau que tu es en train de répandre, tu la mets par terre. Ça semble à du gaspillage. Et quelquefois, on a l'impression que dans certaines choses, il y a du gaspillage. Non, ce n'est pas du gaspillage, c'est de la consécration à Dieu. Comprenons bien le sens des choses. L'aspect spirituel, quelquefois, qui n'est pas toujours visible. Même dans nos rapports les uns avec les autres, même dans ce que nous faisons, dans l'œuvre que nous faisons. Alors, il y a des fois, moi, je n'ai pas toujours compris que dans certaines choses, mon pasteur me dise « tu ne le feras pas ». Et il avait raison. Il avait raison. Quand on a ouvert la ville de Cholet, il y a 25 ans, une ville redoutable, avec tout ce qui s'est passé avec les guerres de Vendée, c'est une ville de sang. Et pendant des années, premièrement, il a fait les réunions, alors que, bon, je servais déjà le Seigneur, et il m'accompagnait. Il disait, je te laisse pas tout seul. Et au bout d'un certain temps, il m'a dit, maintenant, tu peux y aller. Et puis après, bon, on a fait l'œuvre, ce qu'elle a été. Mais il me dit, tu as besoin d'une couverture. Et la couverture spirituelle, ce n'est pas toi qui l'ai, c'est moi qui l'ai pour l'instant. Tu l'auras au moment où Dieu voudra te la donner. Et il avait raison. Et vous savez, même en étant couvert par une autorité spirituelle supérieure, ou l'autorité pastorale, je peux vous dire qu'on en a pris plein la figure. Jusqu'à quelquefois avoir des menaces de mort. Parce qu'il y a des terrains où ça passe, mais il y a des terrains où ça ne passe pas. Et quelquefois, quand on retient certains, on se dit « Ah ben oui, mais il ne fait pas confiance. » Ben oui, on ne fait pas confiance. C'est sûr, apparemment, comme ça, ça semble du gaspillage. Mais ce n'est pas du gaspillage, c'est d'une préservation de la vie. On a appris des choses. Hein. On les a appris parce qu'on en a pris plein la figure. Et on les a appris et on peut bénir le Seigneur que quelquefois, il nous ait donné des autorités pour nous garder et nous protéger de danger. Alors c'est ça, hein, pasteur, aussi, hein. C'est pas celui qui prêche tout simplement, c'est parce qu'il est là. Et puis, un pasteur, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelqu'un qui dit « je suis pasteur, je suis le ministère de Dieu, je suis serviteur de Dieu » et tout ça, c'est pas ça, on laisse ça de côté. C'est quelqu'un qui était appelé aussi pour garder les autres, pour veiller sur les autres. C'est un berger. Voilà, un berger. C'est comme un père de famille qui dit à son enfant « il y a danger » et qui lui interdit certaines choses, qui lui défend certaines choses, qui va le préserver, il va lui dire « le gamin, il comprend rien », il dit « mais papa, il n'est pas gentil ». Ah ben oui, il n'est pas gentil. Ça ne vous arrive pas, messieurs? Tiens, c'est la fête des pères aujourd'hui. Eh oui. Alors, ben oui, mais il y a des raisons, parce que vous, en tant qu'adulte et en tant que père, vous avez une responsabilité, vous savez qu'il y a des choses, que votre enfant accédera à certaines choses, mais pas pour l'instant. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Il y a des gens qui, bon, pour l'instant, ils sont à l'école. Et il faudra qu'ils restent à l'école autant que, non pas que le pasteur le veut, mais le temps que le Seigneur le voudra. Parce qu'on le préparera et on lui donnera de meilleurs éléments pour pouvoir ensuite gagner la partie plus tard. Vous savez, un fruit, quand il est vert, il n'est pas bon. Il faut qu'il soit mûr, il faut qu'il soit à point. Mais nous sommes dans une société maintenant où on mange que des fruits qui sont verts. Parce qu'il faut aller vite. Oui, mais quelquefois, on tombe sur des pépins. Alors, c'est cela, cette situation que nous évoquons brièvement. La vie d'autrui, leurs dons, leurs offrandes, leur dévouement, leur consécration doit être l'objet de notre plus grand respect et l'occasion d'en bénir le Seigneur. Heureusement que je n'ai pas fait toujours ce que je voulais. Je bénis ceux qui ont été mis à côté de moi pour m'empêcher de faire ce que je voulais. On s'en souvient de l'offrande de la veuve racontée dans l'évangile de Marc. Ce n'est pas la quantité qui a été remarquée par le Seigneur, c'est la consécration de cœur. Deux petites pièces qui valaient plus que le superflu des autres. Alors il faut cesser de vouloir faire des éclats avec de la quantité, etc., etc., etc. Ce que Dieu va remarquer dans notre véritable conversion, notre nouvelle naissance, c'est notre amour pour lui et pour nos frères et nos sœurs. Le profit pour soi-même, la gloriole, l'utilitarisme d'autrui. Pardonnez-moi, mais c'est méprisable. Quand on se rappelle la devise d'Abraham. Et vous vous en souvenez de la devise d'Abraham? Ah, j'ai prêché là-dessus. Il y a 2 ans. Bon, si, c'est pas vieux, 2 ans. Alors, vous ne devez pas être là. Moi non plus, d'ailleurs. C'est ici. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? 3 mots. 3 mots. La devise d'Abraham quand il est revenu de la guerre contre Kader Laomer. Ça vous dit quelque chose? C'est un nom très connu, ça. Comment? Oh oui, Kader. Excuse-moi. Bah écoutez, vous m'en voudrez pas, mais quand même. Quand même. Merci, Kader. Il a dit 3 mots. Rien pour moi. Un homme désintéressé. Et on comprend qu'il a été béni parce qu'il était désintéressé. Ça, c'est la devise d'Abraham. Rien pour moi. Quand on a compris que tous les bienfaits de Dieu dont les hommes disposent pour les offrir à d'autres hommes doivent être répandus en sacrifice devant Dieu, c'est alors que ces mêmes bienfaits deviennent pour moi à ce moment-là et autour de moi des fleuves d'eau vive. Vous voulez être en bénédiction? Vous voulez être béni? Eh bien, bénissez les autres. Ne gardez pas pour vous. Ne prenez pas pour vous. Ne me mettez pas en avant. Mais offrez en sacrifice toutes ces choses pour le Seigneur. Et là, à ce moment-là, il va y avoir une multiplication. C'est de l'amour transfiguré qui véhicule et communique des trésors de bénédiction, une source intarissable d'épanouissement pour tous, les uns et les autres. Eh oui. C'est ça, l'Évangile. Enfin, excusez-moi, c'est ma conception, mais il me semble que ça cadre avec quand même ce que Jésus nous enseigne. Gardons à l'esprit que le principe directeur de notre relation à Dieu repose sur l'esprit de sacrifice. Oui, parce que tout dans la Bible, Ancien Testament qui converge vers le Nouveau Testament, dans le cœur du Nouveau Testament, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Il s'est donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça, c'est le sacrifice. Sacrifice, l'esprit de sacrifice, le don de soi-même, la remise totale de notre vie entre ses mains. C'est toujours un mauvais calcul, si je me permets de le dire, que de vouloir garder ce qui est destiné d'être partagé, à être partagé. En vertu du principe suivant que Jésus nous enseigne dans l'Évangile, celui qui voudra garder perdra, et celui qui perdra ou donnera ou offrira volontairement, eh bien conservera. La conclusion, toute simple. David a vu juste quand il a dit cette parole. « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il a répandu cette eau devant l'Éternel. « Donner sa vie pour sauver celle des autres. » C'est ce que Christ a fait. Nous, nous avons reçu, mais ce que nous avons reçu, nous avons besoin de le redonner au Seigneur qui changera, qui va transfigurer finalement tout cela. Parce que quand on veut garder, on le perd. Et à partir du moment où on le donne, on gagne. qui perd gagne. Ouais. Et qui veut garder pour lui-même, eh bien, finalement, eh bien, c'est la faillite. Ça sera la faillite. Que le Seigneur nous aide à travers beaucoup de pensées ce matin, beaucoup de choses, mais qui vont quand même dans un sens. Retenir dans notre cœur que nous ne sommes là pas pour nous servir nous-mêmes, mais pour servir le Seigneur et servir les autres. Que Dieu nous donne sa grâce. Amen. On va prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces textes de la Bible, qui sont une lettre, mais qui va au-delà, Seigneur, si nous la comprenons et la saisissons, illuminée par le Saint-Esprit. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons, Père éternel, que nous pouvons parler d'amour dans notre monde, et le monde parle d'amour, l'Église peut parler d'amour, les hommes de l'Église peuvent parler d'amour. Mais ce qui est le plus important, Seigneur, c'est que cet amour soit pratique. C'est que cet amour, Seigneur, soit illuminé. Et pour que vraiment l'amour puisse être appelé amour, il faut qu'il n'y ait rien pour nous, mais tout pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Alors à ce moment-là, je retrouverai finalement la bénédiction, je trouverai la bénédiction. Parce que tout ce qui va à moi et reste à moi, Seigneur, c'est de l'eau qui ne désaltère pas. C'est de l'eau qui appauvrit, c'est de l'eau qui finalement dessèche. Mais Seigneur, cette eau que nous répandons devant l'Éternel, ta grâce, tes bénédictions spirituelles d'une manière ou d'une autre, c'est un jaillissement. Seigneur, véritablement une bénédiction, Seigneur, une grande bénédiction pour ton royaume, pour ton Église, pour les uns, pour les autres. Et nous voulons te rendre grâce. Alors, si tu nous donnes soif et donne-nous de plus en plus soif, donne-nous soif véritablement de ta gloire et donne-nous soif de la gloire des autres. Donne-nous soif de la bénédiction des autres. Donne-nous soif du bien des autres. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.